Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. Petit Jamiroquai, c'est bien cool pour commencer l'émission. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire. Aujourd'hui, nous recevons Jeannie Lescoulier, psychologue directrice du CIO, et Aude Trancard, psychologue éducation nationale, qui sont venus nous parler du Centre d'information et d'orientation de Dax, le CIO. Bonjour mesdames, comment allez-vous ?
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir ou redécouvrir pour certains le CIO, d'ailleurs qui va bientôt déménager, on va en parler. On va d'abord écouter le flash info national et international et ensuite on se retrouve pour la première partie de cette émission. Et c'est parti, donc on va parler du CIO, mais on va aussi commencer par découvrir nos invités elles-mêmes, hein, c'est la tradition dans cette émission. On commence par faire une petite trajectoire personnelle des invités qui nous donne une petite idée de la trajectoire qu'ils ont parcourue pour se retrouver à ce jour au micro. Alors qui est volontaire pour se lancer en premier ?
Jeannie, je pense.
Et voilà, paf, allez, tiens. Bon, c'est la directrice en même temps. Hein. Voilà, allons-y.
Merci. Oui, eh bien, moi, je suis originaire de Franche-Comté, du Doubs. Et je suis arrivée dans les Landes en 1989. J'étais titulaire d'un diplôme en psychologie. J'avais déjà travaillé dans un service d'oncologie. Je n'ai pas trouvé de travail ici, dans ces secteurs-là. Donc, Je suis allée dans l'éducation nationale comme surveillante au lycée de Borda.
Ah oui.
Puis conseillère d'orientation contractuelle. Et j'ai passé le concours. Donc j'ai été titularisée au CIO de Dax. Après, je suis devenue directrice. Je suis partie à Mont-de-Marsan, directrice. Et puis je suis directrice au CIO de Dax depuis 2018.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va se tourner vers notre deuxième invité. Aude, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre trajectoire personnelle ?
Alors moi, j'ai été diplômée psychologue en 2007 avec une spécialité vraiment tournée vers le groupe et l'accompagnement des réflexions de travail. J'ai travaillé dans divers organismes et très vite, en fait, je suis devenue conseillère d'orientation psychologue contractuelle au CIO de Dax. J'ai passé le concours en 2018, donc un concours par contre de psychologue de l'éducation nationale.
Oui.
Et depuis quelques années, maintenant, je suis aussi actrice de la formation du personnel sur les questions de potentiel suicidaire et de l'analyse de pratiques pour les professionnels, pour les enseignants notamment, qui peuvent être confrontés à des situations difficiles.
Bien sûr. Très bien, mais merci beaucoup. Alors, la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est aussi parce qu'on est voisins, hein, on est pas loin. Hein, donc, en passant devant chez vous, je me dis, tiens, et si je les invitais, parce que je pense qu'il y a des choses à raconter, à faire découvrir ou redécouvrir à nos auditeurs, quelles sont les fonctions d'un CIO, voilà, ça a quand même une utilité. Alors vous êtes donc un organisme d'État, vous faites partie de la fonction publique, hein, on a parlé de concours, voilà. Vous êtes rattaché à quel ministère, celui de l'Éducation nationale ?
Oui, tout à fait. On est des fonctionnaires de l'Éducation nationale. Donc au CIO, il y a des titulaires qui ont passé le concours, qui ont fait la formation. Mais on a aussi des contractuels qui sont recrutés avec un bac plus 5 de psychologie.
D'accord. Alors on va en parler de ça, cette formation et le profil des gens qui travaillent donc au CIO ou dans les CIO en général. Je crois qu'il y en a un autre dans les Landes qui est à Mont-de-Marsan, qui a deux antennes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il y a le CIO de Mont-de-Marsan avec antenne R sur la Dour et Parentis en Borne.
Voilà. Donc vous avez chacun votre secteur.
Oui.
Et alors du coup, parce que bon, les choses ont changé, on en parlera un petit peu de l'historique hein, de cette fonction, de ce travail. Il y a eu beaucoup de changements, hein, donc avec un point d'inflexion fort en 2017, tout à coup les choses ont changé. Ça a été une révolution quand même dans le métier, c'était un gros changement, vous l'avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait eu quand même des problématiques sociétales en lien avec des troubles à l'ordre public de la jeunesse. Et Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale à cette époque, a fait en sorte que notre champ de compétences ne soit plus axé sur le conseil en orientation, dans la mesure où finalement, aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils du numérique qui permettent aux jeunes et aux familles d'avoir une information quand même assez claire, assez complète. complète. Alors après, ils ne savent pas toujours faire le tri dans
oui.
tout ça.
Oui.
Mais on s'est aperçu qu'il y avait un besoin important d'accompagnement mmh. Des jeunes sur les problématiques de santé mentale.
Mmh, mmh.
Et même si les établissements, les collèges et les lycées ne sont pas des centres de soins, mais en tout cas, qu'il y ait cette prise en charge mmh. et cette prise en compte, mmh, étant donné que les résonances psychologiques des événements familiaux mmh. ont souvent lieu dans l'établissement scolaire.
Oui, oui, c'est le lieu de vie des élèves, des jeunes. C'est un peu là qu'ils se font leurs premières armes dans la société, hein, la vie en société, avec toutes les difficultés que ça représente. Alors, comme dans beaucoup d'émissions, je crois qu'à un moment donné, votre objet d'aborder un petit peu le sujet, c'est le Covid. Ce fameux Covid, parce que dans la société, ça a été quand même un hiatus. Hein. Il y a eu, je dis toujours, avant ou après, plein d'associations pour des raisons diverses, logistiques, etc., on l'a vécu différemment. Mais là, le sujet, là, c'est, on parle de la difficulté des jeunes, de la société en général. Mais il y a eu un avant et un après aussi que vous pouvez percevoir, j'imagine.
Alors nous, le Covid, on a continué de travailler.
Ouais.
On faisait du télétravail, mais on appelait les jeunes qui étaient repérés par les établissements mmh. scolaires, qui n'allaient pas bien. Donc nous, on a vraiment eu une période compliquée, mmh. parce que un psychologue qui travaille en télétravail,
ouais.
C'est quand même très très particulier.
On a accompagné, c'était très nouveau.
Très nouveau, et puis on a accompagné beaucoup de jeunes. Après, on dit beaucoup, après le Covid, les troubles anxieux scolaires, il y en a beaucoup plus. Il y en avait déjà avant, on en parlait peut-être un petit peu moins.
Ouais.
Mais ça a toujours existé. Alors on parlait de phobie scolaire, mais les troubles anxieux scolaires, maintenant, effectivement. Alors on ne fait pas que ça, nous, dans nos métiers.
Non,
hein. On a
sûr.
Quand même encore une partie orientation.
Mmh. Hein. Oui.
On travaille sur le projet.
Oui.
Mais c'est vrai que statistiquement, quand on prend les entretiens menés par les psychologues de l'éducation nationale au CIO ou en établissement scolaire, maintenant... c'est limite majoritaire les troubles anxieux scolaires et les élèves qui présentent des difficultés par rapport aux entretiens d'orientation classiques.
Bien sûr,
Mais c'est-à-dire que les deux, en fait, sont très intriqués. Mmh. Il va être très compliqué de pouvoir travailler sur l'orientation, sur une projection dans l'avenir, alors même qu'un événement comme le Covid a pu couper, en fait, cette capacité de projection.
Mmh.
Donc, il y a eu un effet du Covid sur la santé mentale des jeunes, mais pas que le Covid, en fait.
Non, bien sûr, la société elle-même.
La société elle-même, les événements géopolitiques, enfin, tout ça, ça a un impact.
Mmh.
Et nous, notre rôle en établissement scolaire, c'est de pouvoir accompagner le jeune dans cette projection sur la construction d'un projet.
Oui, alors c'est vrai que moi j'ai entendu pas mal de parents dire « Ah ouais, de réaliser tout à coup que j'ai entendu des gens, des fois dans la discussion, dire « Ah ouais, en fin de compte, j'admire les enseignants de supporter nos enfants tout le temps, parce que c'est vrai qu'eux aussi se sont retrouvés, la plupart, avec les enfants, ils se sont rendus compte, du coup, que l'école a aussi, bon, même si c'est un terme péjoratif, joue aussi le rôle de garderie, hein, et les garde à distance, les enfants, en tout cas, de eux, pendant qu'ils ont leur activité professionnelle, quand ils en ont une. Hein, je pense qu'aussi, ça a changé aussi, justement, la vision des parents, hein, pas que des enfants, par rapport à ce problématique.
Ben, j'espère, en tout cas, que les parents se sont rendus compte que, vraiment, l'école... avait un énorme rôle à jouer dans le développement de l'enfant, mais que l'école ne fait pas tout.
Ah non, non. Ah oui, mais ça, c'est vrai qu'on dit que normalement, l'enseignant et le parent doivent travailler main dans la main. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais
En tout cas, nous, on parle de coéducation et c'est vraiment ce qu'il faut.
L'un de nos objectifs au quotidien, d'impliquer le parent dans la construction du projet, dans la scolarisation. Et ça peut être aussi l'une de nos fonctions, en fait, de proposer des événements autour de l'orientation ou autour de la compréhension du développement psychologique, autant de l'orientation, à destination des parents.
Oui, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On en parle maintenant, c'est un sujet que je ne connaissais pas jadis, hein, d'aide à la parentalité, etc. Ouais. Il y a des institutions, des associations, etc., qui font des actions dans ce sens-là. Alors, je me pose toujours la question, est-ce que c'est parce que la société a changé qu'il y a besoin d'utiliser ce truc en plus, qu'avant, on avait des parents, on se posait pas la question, ou alors il y a vraiment un problème, en fait, ce besoin-là, il est apparu, ou il était déjà là avant, mais pas traité correctement.
Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les enfants changent et les parents changent.
Mmh.
Donc, ça, c'est vrai. La parentalité, je pense qu'on met beaucoup plus l'accent maintenant sur l'accompagnement des familles qui peuvent se trouver complètement démunies face à un enfant en extrême difficulté. Tous les professionnels de l'éducation sont là pour les accompagner quand ils veulent bien être accompagnés.
Oui, bien sûr. Oui.
Après, il y a des problématiques qui sont apparues qui n'existaient pas. Ce que disait Janie, c'est qu'on n'a pas les mêmes enfants qu'avant.
Non.
Donc, les problématiques, d'accès à la pornographie, c'est des choses qui n'existaient pas. Nous, on est là en coéducation avec les parents, avec les équipes, pour accompagner la famille. Dans ces problématiques-là.
C'est vrai qu'il y a une transition de société. C'est vrai que le numérique a des tas d'avantages et des tas d'inconvénients. Hein. D'ailleurs, je crois que j'ai vu un article ce matin où on envisageait d'interdire dès la rentrée le téléphone portable, même au lycée.
Oui.
Voilà. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a des lycées où ça se fait déjà. Il y a certains professeurs, des enseignants, ils arrivent, les élèves ont l'habitude, ils posent leur téléphone dans une case et après ils les récupèrent en sortant. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est un problème de société. Il va falloir traiter, hein, d'une manière ou d'une autre. Il ne va pas falloir faire l'autruche à un moment donné. Il va falloir le prendre à bras le corps, ce problème. Alors voilà, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Voilà, de retour. Donc, c'est un petit pressure de Billy Joel. Bon, effectivement, c'est un petit problème de pression aussi pour certaines personnes, les parents en ce moment, peut-être aussi, et les élèves qui passent des examens. Bon, voilà, c'est une période un peu charnière pour certains d'entre eux. Je voulais revenir un peu sur la fonction des psychologues de l'éducation nationale, notamment sur la... Alors moi, j'ai des curiosités toutes simples qu'on pourrait avoir n'importe quelle personne. Qu'est-ce que c'est que cette formation? Qu'est-ce qu'on y apprend? Parce que je ne sais pas vraiment ce qu'apprend un psychologue et comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il fait vraiment? Ça peut rester mystérieux des fois, voire même faire peur. Mais Aude est là pour nous rassurer.
Je ne sais pas, je ne suis pas sûre.
Donc, ça consiste en quoi?
La formation. Recruté sur concours à Bac plus 5. Mmh. Donc, on a déjà en fait une formation de psychologue. Mmh. Donc, ça peut être une formation de psychologue du développement, donc chez l'enfant. Ça peut être une formation de psychologue clinicien, donc vraiment sur de la thérapeutique. Mmh. Et à l'issue de ce Bac plus 5, on a la possibilité donc, de passer un concours de l'éducation nationale. Mmh. Donc, cette année de formation qui se passe dans différents centres, notamment à Bordeaux pour le plus proche, nous permet de faire un peu d'adéquation avec ce qu'on a pu développer durant ces 50 formations avec les attentes et les exigences de l'éducation nationale. Mmh. L'objectif de cette formation, c'est aussi de nous permettre de comprendre les rouages du fonctionnement de l'équipe. Voilà, pédagogique, éducatif,
c'est pas forcément évident, hein.
Et administratif. On a un champ de compétences qui est partagé et on est très peu en établissement scolaire. Si on travaille seul, en fait, le travail n'est pas possible.
Oui.
Donc, il faut vraiment qu'on puisse effectivement travailler ensemble. Donc, c'est un axe très important de notre formation.
Oui. Alors, d'ailleurs, vous êtes souvent, partiellement en établissement. Vous avez un secteur, vous vous déplacez. Donc, jadis, il y avait un conseiller d'orientation, à l'époque où ça s'appelait comme ça, à demeure dans chaque établissement, plus ou moins. Puis petit à petit, il a fini par être mis sur deux, trois. Je crois que ça devienne tout à fait autre chose. Hein. Je suppose que vous avez une zone.
Tout à fait. Alors, on est 10 au CIO de Dax et on essaye d'avoir en fait des établissements à proximité quand même de notre domicile pour favoriser les déplacements et la disponibilité. Donc, pour un psychologue de l'éducation nationale, on a à peu près 1500 élèves en charge. Mmh. Donc, ça veut dire 3 établissements avec en plus des permanences au CIO de Dax, notamment pendant les vacances scolaires, pouvoir répondre aussi aux demandes des jeunes qui ne sont pas forcément scolarisés ou scolarisables, quand on parle de décrochage scolaire.
Oui, c'est vrai que ça, c'est une chose que j'ai notée en préparant, c'est qu'effectivement, ça peut paraître... parce que des fois, on se dit, éducation nationale, vacances, ça veut dire zéro travail. Ben non, là, effectivement, ça a tout son sens que vous soyez disponible pendant les congés, de manière à ce que les élèves, qu'eux, ils ont cours, ils puissent venir vous voir.
Puis les élèves, effectivement, qui sont plus en mesure d'aller dans les établissements scolaires, les décrocheurs, les gens qui rencontrent effectivement une problématique d'anxiété scolaire.
C'est ça, oui. Ou alors, ça, c'est votre cœur de métier, donc c'est ce décrochage. Vous aidez les élèves qui sont en décrochage. Alors, c'est quoi un élève en décrochage? C'est un élève qui dort au fond de la classe, qui fait plus les devoirs, qui ne vient plus en cours. C'est quoi le profil du décrocheur, s'il y en a un?
Oui, oui, oui. Plusieurs cas de figure. On a effectivement l'élève qui va être au fond de la classe, présent physiquement et c'est tout. Mmh. On a celui qui va plus vouloir aller à l'école pour une raison ou une autre. On a celui dont on voit que les résultats chutent considérablement et qu'on ne comprend pas forcément pourquoi. Donc, dans les établissements scolaires, il y a ce qu'on appelle des GPDS, des groupes de prévention du décrochage scolaire. Et en fait, là, c'est le repérage. C'est vraiment leur mission. C'est travailler en lien avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire, qui est aussi de l'éducation nationale. Donc, sur DAX, on a trois personnes qui travaillent vraiment en collaboration avec nous. Et l'objectif, c'est de repérer ces élèves et de trouver le moyen de reprendre contact avec eux pour qu'ils reprennent une scolarité.
Ouais.
La mission du décrochage scolaire, en tout cas pour moi directrice, c'est une des grosses missions que je dois mener toute l'année. Puisqu'il y a le repérage en établissement scolaire, il y a aussi le repérage au niveau académique. Donc on reçoit des listes de jeunes sortis du système avant d'avoir validé un diplôme pour lesquels il faut qu'on sache qu'il faut, donc on les retrouve, on leur propose des rendez-vous et on leur propose des solutions.
Alors c'est quoi la marge d'action que vous pouvez avoir pour aider des gens comme ça? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer à un élève qui est en décrochage scolaire? Est-ce que c'est de faire une pause, de revenir? Est-ce que c'est de partir sur autre chose? Enfin, je ne sais pas quels sont les...
Fait, c'est surtout ce qui va être important, c'est son âge.
Oui.
C'est s'il a moins de 15 ans, s'il est entre 15 et 16 ans et s'il a plus de 16 ans, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes leviers.
Ah, c'est vrai que, oui.
Donc un élève de moins de 15 ans, c'est relativement compliqué de l'accompagner puisqu'il est sous obligation scolaire.
C'est vrai, il paraît, oui.
Oui, voilà. Oui. Et un élève entre 16 ans et 18 ans, il est sous obligation de formation. Donc à chaque fois, il y a le mot « obligation ».
Oui.
Un élève de moins de 15 ans, ce qu'on peut lui proposer, c'est soit un parcours aménagé de la formation initiale, c'est un PAFI. En fait, on aménage sa scolarité de façon à ce que ce soit moins contraint d'aller à l'école tous les jours.
D'accord, oui.
Après,
d'un retour progressif, en fait.
Voilà, l'idée, c'est de le faire revenir progressivement à l'école.
Oui.
Pour les 16 ans et plus... on a la possibilité de travailler avec la MLDS, donc la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Eux, ils ont un dispositif spécifique pour les accompagner en vue d'une formation. Ce n'est pas forcément un retour à l'école, pour le coup.
Oui.
On en a qui ne peuvent absolument pas envisager de revenir à l'école. Mais un apprentissage, un service civique, enfin voilà. On travaille en lien aussi avec la mission locale. On organise des plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, multipartenariales. Donc là, on a la mission locale, l'armée, les établissements privés agricoles. Et on essaie de trouver une solution pour ces jeunes qui acceptent de notre invitation.
Oui, voilà, il faut qu'ils acceptent, ça on va en parler aussi. Et puis voilà, bon, le but c'est que personne ne reste derrière.
Au bord du chemin, voilà. Comme on disait il y a quelques années.
Ouais, voilà, c'est ça. On va faire une deuxième petite pause, écouter un petit peu de musique et le flash info local cette fois-ci. Et on retrouve nos invités après ça. Et voilà, de retour, on a eu un petit peu de Huey Lewis and the News et Randy Newman. Et tout ça, c'est un petit peu à l'hommage du temps qu'il fait en ce moment, qui fait penser un petit peu au soleil de la Californie. Allez voir leur clip, vous verrez, c'est la même chose avec des palmiers en plus. Donc on va retourner à nos moutons par contre, on va parler un petit peu du CIO, de savoir, vous avez expliqué un petit peu tout ce que vous, les dispositifs que vous utilisez, les fonctionnements, donc j'en ai parlé un petit peu à un moment donné, il y a des, des entretiens personnalisés, etc. Quels sont vos outils, quels sont les outils que vous utilisez et comment est-ce qu'on peut vous rencontrer et où?
Alors, l'entretien individuel, c'est effectivement la majeure partie du travail d'un psychologue de l'éducation nationale en établissement scolaire ou au CIO, entretien personnalisé. Après, il y a effectivement, on répond à des demandes de bilan psychométrique uniquement quand l'élève est en difficulté d'apprentissage et pour essayer de comprendre où est-ce qu'il peut y avoir un problème. Donc, Aude, tu peux peut-être...
Mais c'est ça, le bilan psychométrique est vraiment c'est un outil sur lequel on s'appuie pour proposer le meilleur accompagnement à l'élève qui rencontre des difficultés persistantes, pour évaluer aussi si on est dans le cadre du handicap. Donc Janie disait, l'entretien individuel, oui, effectivement, c'est au cœur de notre métier, mais aussi la mise en place de différents types d'ateliers, alors à différentes visées. Hein. Il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, il y a vraiment eu des problèmes en termes de harcèlement au sein de l'éducation nationale. Oui. Il y a toujours.
Hein. Sujet récurrent.
Sujet récurrent. Mmh. Et on nous a demandé, et c'est tant mieux, de travailler sur les compétences psychosociales des élèves. Et c'est à cette occasion-là, effectivement, qu'on a pu proposer et commencer à mettre en place différents ateliers sur l'expression des émotions, sur comment gérer sa colère, comment gérer certaines émotions qui peuvent parfois envahir l'élève. Donc voilà, on est aussi à pied d'œuvre sur ce genre sur ce genre d'action. Donc entretien individuel, bilan psychométrique, de moins en moins de tests en lien avec l'orientation. On n'est pas du tout sur une sur un travail adéquationniste. L'idée de notre travail en collaboration avec les équipes, c'est de rendre l'élève ambitieux, donner le meilleur de lui-même et se réaliser et s'épanouir dans la formation qui lui convient le mieux. Voilà, c'est vraiment cette notion d'ambition et pas d'adéquationnisme.
Oui.
Donc les tests d'orientation, c'est pas forcément notre quotidien, même si c'est vrai que ça peut être un outil intéressant.
Oui, oui. Donc vous travaillez de concert avec les professeurs principaux, etc. Parce que ils ont eux, ils ont eu des bouleversements dans leur carrière, dans des tâches qui leur sont arrivées. Tout à coup, ils se sont dit, tiens, ben c'est nous, on va remplacer les conseillers d'orientation. Enfin, moi, je caricature un petit peu, mais bon. Voilà, et donc, du coup, ils se sont retrouvés aussi impliqués dans ce processus.
La compétence à l'orientation est vraiment une compétence partagée. Les professeurs ont une vision de l'élève que nous, à raison d'une journée par semaine en établissement scolaire, on n'est pas en mesure d'avoir.
Bien sûr.
Ils ont cette possibilité, puis ils ont vraiment ce regard pédagogique que nous on n'est pas en mesure d'avoir non plus. Donc ils savent effectivement dans quelle mesure l'élève est en réussite sur telle ou telle filière. Nous on a finalement quelque chose de très très plat. On a accès à Pronote avec les résultats scolaires, mais ça ne nous dit pas comment l'élève réfléchit, comment est structuré, etc. Donc on travaille effectivement avec les professeurs principaux, avec les chefs d'établissement, avec la CPE ou le CPE, sur cet aspect. Voilà, est-ce que cet élève va être bien dans tel ou tel cadre, dans tel établissement, en termes de comportement.
Alors après, j'imagine, moi je ne suis pas psychologue du tout, j'imagine que la psychologie des enfants et ados est vraiment spéciale sur la gestion, parler des émotions et tout. Bon, c'est normal, ce sont des individus qui sont encore
en construction.
Donc j'imagine effectivement que les phénomènes de débordement, ils sont plus fréquents que chez un adulte. Parce qu'en fait, j'imagine dans votre travail, c'est d'arriver à les faire comprendre que c'est leur vie, leur avenir, et qu'il faut qu'ils soient partenaires de ce que vous êtes en train de faire.
C'est le premier acteur, en fait.
Oui, c'est ça. Oui, oui.
Il faut qu'ils se sentent bien pour pouvoir voir plus loin. Donc, un enfant qui ne va pas bien, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne va pas réussir à travailler le projet.
Oui.
Il faut qu'il aille bien. C'est vraiment la priorité. Et c'est pour ça que travailler en collaboration avec les équipes, les premiers à voir les petits symptômes qui vont montrer qu'un enfant ne va pas bien, ce sont les professeurs.
Et oui.
La vie scolaire... On ne peut pas travailler tout seul, ce n'est pas possible.
Bien sûr, oui. Et puis alors, il y a aussi les parents. Parents, parce que du coup, quand même, ils sont un petit peu dans l'équation, on ne va pas les oublier. Parce que ce qui ne se passe pas à l'école, ça se passe à la maison. Et c'est vrai que les parents, ils sont... des fois, vous avez affaire à eux parce qu'ils vont être un petit peu désemparés. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui vient vous voir quand quelqu'un vient vous voir ou prend rendez-vous? J'imagine que c'est plus souvent les parents qui disent « Voilà, mon fils, ça ne va plus du tout. » Plutôt que... Est-ce que ça arrive qu'un enfant, un élève lui-même, il fasse cet entre guillemets, appel au secours? Il semble bien qu'il a besoin d'aide.
Oui, Non. Tout à fait, effectivement. Aujourd'hui, le psychologue n'est plus vu uniquement comme celui qui va soigner le fou. Les enfants ont l'habitude, les adolescents ont l'habitude d'aller fréquenter ce type de personnel et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'ils savent faire appel à l'environnement qui l'entoure. En début d'année scolaire, on essaye de se présenter aux arrivants, aux élèves de 6e, pour qu'ils puissent effectivement nous repérer et être une personne ressource dans leur cheminement au sein du collège. Donc, spontanément, on va avoir des rendez-vous qui sont pris par, par les élèves pour traiter diverses problématiques. Après, la demande de rendez-vous, elle émane souvent d'équipes pédagogiques. Hein. Les professeurs vont dire bah, ça serait intéressant que tu puisses recevoir tel ou tel élève. Le CPE, et comme Jeannie l'expliquait tout à l'heure, on a les groupes de prévention du décrochage scolaire, des cellules de veille, qui sont des instances qui permettent de repérer les élèves qui rencontrent certaines fragilités, aussi bien scolaires que psychologiques.
Alors, ce que vous dites, c'est intéressant parce que bon, c'est, voilà, jadis, c'est-à-dire de mon temps, psychologue, on n'en parlait pas. Effectivement, c'est forcément un gros problème, c'est pas normal. Donc, alors, effectivement, la société a peut-être évolué, mais je vois que le dispositif aussi, et que maintenant, vous êtes présent, et c'est vrai que, notamment, il y a des séances de psychologues qui sont des fois prises en charge, alors qu'avant, ça n'existait pas, hein, depuis quelque temps, parce que c'est le problème psychologique, ça peut suivre aussi les étudiants. Hein. Moi, j'ai connu des élèves en prépa, ce genre avec des pressions très fortes, qui ont très mal vécu ben, ça. Ils ne s'y attendaient pas forcément à ce choc-là, ou en médecine, hein, ce genre de truc où on est vraiment sous pression. Donc, parce que vos interlocuteurs, vous, c'est qu'au lycée, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui se passe au-delà ?
Ah oui, nous, on commence avec les collégiens, mais en fait, il n'y a pas de fin.
Voilà.
On reçoit aussi des adultes en reconversion qui veulent travailler sur leur projet. Oui, oui, là, il n'y a pas de...
D'accord, donc ça peut être un adulte. Ça pourrait être, moi, par exemple, tiens, je veux changer de métier. Oui. C'est pas mon intention de suite, mais... mais donc, oui, vous faites aussi les adultes.
Oui, bien sûr.
Ah, voilà, mais ça, c'était pas évident pour moi, en fait. C'est parce qu'on parle beaucoup du milieu scolaire, l'éducation nationale, etc. Et c'est vrai que ce changement de vie, ça concerne beaucoup de gens.
Oui, et on a, vous venez d'évoquer les élèves qui étaient soumis à une très forte pression, qui n'allaient pas bien. On a aussi, nous, maintenant, la responsabilité, entre guillemets, des gestions de crise. Quand il y a une crise dans un établissement scolaire, un événement traumatique, on intervient aussi en tant que psychologue dans ces instances, avec parfois la CUMP.
D'accord, oui, parce qu'on parlait des fois d'une cellule psychologique qui est mise en place. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs une cellule psychologique ce dispositif, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est un psychologue qui vient parler à la classe, qui leur explique des choses? C'est quoi en fait?
C'est pas forcément descendant, c'est plus à la demande quand il y a un événement traumatique, donc le décès d'un élève, d'un enseignant. Nous, on se met à disposition, alors sur différentes formes, en binôme parfois avec l'infirmière ou la centre sociale de l'établissement scolaire, pour proposer un temps d'accueil de la parole, un temps d'écoute. Alors, on ne fait pas de miracle, hein, mais l'idée, c'est vraiment de recueillir et de faire en sorte qu'à ce moment précis, ça ne prenne pas des proportions dramatiques et peut-être de permettre aux jeunes de faire redescendre la pression et que ce ne soit pas traumatique et de renvoyer effectivement vers un accompagnement extérieur si cela est nécessaire.
Oui, c'est vrai qu'alors, quand on en parlait tout à l'heure de... le côté anxiogène des infos, etc. Mais c'est vrai que des événements où il a fallu utiliser ce genre de dispositif, on en a malheureusement entendu pas mal.
Oui.
Effectivement, vous avez bien fait de signaler que ça pouvait toucher aussi les enseignants, parce que malheureusement, ça aussi, hein, voilà, Samuel Paty, etc., etc. Hein, on ne va pas citer tous les noms, mais voilà, donc c'est effectivement... l'école, au sens large, avec un grand E, on va dire, hein, c'est un endroit particulier hein, de vie où se croisent... des enfants, des adultes, des enseignants, des enseignés, etc. C'est quand même l'école de la vie, quelque part. C'est la première étape.
Et ça doit rester une école. Ça ne doit pas être un endroit de souvenirs extrêmes, manifester. Quand je vois toute... vous savez, il y a un événement traumatique qui arrive et... ça devient un mausolée, l'école. Non, l'école, ça doit rester l'endroit où il y a des élèves qui apprennent, qui continuent de vivre. Alors certes, on fait un focus, on les accompagne un temps, mais l'école doit rester l'endroit où l'élève, il est là pour apprendre et pour devenir un citoyen.
Ouais, puis c'est quand même, enfin l'école, bon, c'est vrai qu'on peut avoir des mauvaises notes, ça peut être embêtant, les parents, les profs et tout, mais c'est quand même un endroit sympa parce que c'est le premier endroit où on se fait des copains, enfin on vit, on se fait des groupes, on peut rencontrer des petits copains, des petites copines aussi, enfin voilà, c'est l'endroit de la vie, c'est en fait ça peut être vraiment génial l'école en fait.
Mais ça peut être aussi dramatique, c'est un lieu de socialisation qui peut à l'adolescent être très, très violent, très perturbant, et nous l'idée c'est vraiment de pouvoir accompagner les élèves là-dedans, et de faire le lien, de faire le pont avec, avec les familles, surtout quand il y a des situations de harcèlement et tout un tas d'autres choses, quoi, de pouvoir repérer, de pouvoir accompagner, de pouvoir faire en sorte que cet événement-là reste pas une, comment dire, une cicatrice terrible pour le reste de la scolarité du jeune.
Oui.
Sachant qu'on travaille en partenariat beaucoup avec le CMP adolescent de Dax et la maison des adolescents. Voilà, on a vraiment des liens privilégiés.
Oui. C'est bien de le dire. On va faire une dernière pause et encore un petit peu de musique et on va attaquer la dernière partie de cette émission. Et nous voilà avec nos invités de retour pour la dernière partie de cette émission. Alors en général, c'est la partie qui est consacrée pas mal à l'actualité, parce que même chez vous, il y en a une actualité, il y a, il paraît, un déménagement en vue.
Ah oui, nous avons un bâtiment actuel qui n'est plus du tout en état. Donc on va déménager 8 rue Sainte-Ursule à Dax dans les locaux de l'Institut du thermalisme. Donc voilà, à partir du 15 septembre, on sera là, centre-ville.
Vous aurez un cadre plus sympa peut-être.
Oui.
Enfin, les bâtiments,
c'est beaucoup
cas,
plus petit que là où on est, mais et peut-être un petit peu difficile pour les familles parce que c'est centre-ville et parce qu'il va falloir se garer.
Ah oui, toujours cette histoire, c'est vrai.
Mais oui, mais après on
a faut marcher. Le problème, c'est pas vous se garer, c'est le problème, c'est qu'il faut marcher, c'est tout. Et puis voilà, et faire du vélo aussi. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour ça. Bon sang. Alors, en parlant d'actualité aussi, donc il y a une actualité. Effectivement, on arrive à la fin de l'année. Il y a quand même une saisonnalité dans votre travail, même si vous n'êtes pas agricultrice. Hein, il y a quand même des rythmes à suivre, n'est-ce pas? Et donc, du coup, il y a quand même des petites parties un peu compliquées des fois pour les élèves, les parents et tout. Et on peut faire peut-être appel à vous pour être aidé, non?
Alors là, il y a les élèves de terminale qui ont fait des vœux sur Parcoursup. Donc nous, on peut accompagner les élèves qui n'ont pas du tout eu, par exemple, de réponse positive. On les appelle là actuellement, hein, on a le listing, mais pour faire des vœux dans la procédure complémentaire ou pour classer leurs vœux quand ils ont des vœux en attente. Et puis, il y a les élèves de 3e et de 2e, donc il y a le dispositif AFELNET. Donc ils vont avoir les réponses fin juin d'une éventuelle affectation. Effectivement, les élèves non affectés, normalement, ils doivent refaire des vœux pour le deuxième tour, puisqu'il y a un deuxième tour en juillet, voire un troisième tour en septembre.
Ah oui.
Mais le CIO, on est effectivement là pour les aider, les accompagner à faire de nouveaux vœux sur les places vacantes. Le travail se fait en établissement scolaire, mais on est partenaire de l'établissement.
Ouais. Ouais.
Il ne faut pas hésiter à venir, c'est gratuit de
venir
au CIO.
C'est un service public, c'est gratuit.
Tout à fait.
Et donc, on n'est pas forcément obligé de payer un coach pour faire appel à vos services, parce que vous êtes déjà payé par l'État pour nous aider avec nos impôts. C'est quand même dommage de ne pas faire appel à vous. Hein, bon,
c'est bien, c'est vrai.
Ouais, voilà. Et donc, bon, pas d'autres actualités, pas de festival, pas de portes ouvertes.
Non, mais on est ouvert pendant les vacances.
Oui,
on
voilà, c'est vrai.
On ferme le 12 juillet et on rouvre le CIO le 24 août.
D'accord. Donc de quoi? Et puis après c'est reparti, hein?
Ah puis là, voilà. Oui, c'est reparti, je vous dis, avec le troisième tour à Felnet. C'est-à-dire que ce sont les places laissées vacantes qui vont être remises dans un pot commun pour faire des vœux. Donc
oui, on parce qu'il y en a
pieds
des...
au plancher.
Il y en a des pauvres qui sont un petit peu inquiets. Mince, de quoi demain va être fait? Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais me retrouver? Bon, parce qu'après, c'est vrai que bon, les jeunes, tout le monde ne peut pas avoir forcément être focus sur un travail, une formation. On peut être dans l'expectative et ça peut même durer toute une vie. Hein. Donc voilà. C'est, quand on est plus jeune, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais vous êtes là pour les aider.
On essaye.
Voilà. Eh bien, mesdames, merci beaucoup d'être venues. C'est très sympa.
Bah, merci à vous de nous avoir invités.
Voilà, c'est dommage, je ne vous ai pas découvert avant. On est voisins. J'aurais pu venir boire le café. En plus, vous allez déménager, c'est dommage.
Hein. Vous viendrez dans les nouveaux locaux, c'est quand même plus sympa.
D'accord, je viendrai pour la pendaison de crémaillère. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.